Votre matinale info.
Pierre de Villeneau.
Bonjour Émilie Dez.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1 8h.
Si le déconfinement intervient relativement rapidement, on sait qu'on aura des réservations de dernière minute, de dernière seconde.
L'espoir des professionnels du tourisme, alors que l'on ne sait pas si l'on va pouvoir passer Noël en famille. Seule certitude, les fêtes de fin d'année se feront en petit comité.
Nicolas Sarkozy contre-attaque. Il exprime sa colère 2 jours après le retrait surprise des accusations de Ziad Takieddine sur un présumé financement libyen de sa campagne en 2007.
C'est le grand dossier de ce matin sur Europe 1, la fermeture de l'usine Bridgestone à Béthune qui emploie 863 salariés. Lionel Gougelot s'est penché sur le bilan des projets de relance des grands sites industriels des Hauts-de-France.
Et puis 3 jours après sa défaite face à la Finlande, l'équipe de France de foot affronte le Portugal. C'est ce soir et c'est à Lisbonne.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À un peu plus d'un mois des vacances de Noël, difficile de savoir où nous serons le 24 ou même le 31 décembre. Le Premier ministre Jean Castex a envisagé cette semaine un allègement du confinement pour les fêtes de fin d'année, mais il a prévenu qu'elles seraient différentes des années précédentes. Alors pour le moment, les réservations de logements ne s'emballent pas, Carole Ferry.
Une chose est sûre, on est loin des niveaux de réservation de l'an dernier à la même période. Personne ne souhaite communiquer sur l'ampleur du recul, mais que ce soit chez Abritel, Gîtes de France, Pierre et Vacances ou encore au Club Med, tous font le même constat. Les réservations ont stoppé quasi net à l'annonce du confinement. Et globalement, aujourd'hui, les Français attendent de savoir s'ils auront droit de bouger avant de réserver. C'est ce qui se passe notamment du côté des stations de ski, selon le président de France Montagne, Jean-Luc Bock.
On a très très bien commencé. En septembre, on avait beaucoup de demandes. Bien entendu, et malheureusement, je dirais, on a eu une forte baisse qui est tout à fait logique depuis l'annonce du confinement. On a un petit recul qui oscille entre 10 et 20% suivant les stations, si on fait une moyenne. Mais c'est pas forcément très significatif à ce niveau-là. Si le déconfinement intervient relativement rapidement, on sait qu'on aura des réservations de dernière minute, de dernière seconde.
En attendant, leur protocole sanitaire est en ce moment entre les mains des autorités. Ils prévoient notamment des centres de dépistage en station et le port du masque dans les files d'attente aux remontées mécaniques.
Carole Ferry pour Europe 1.
Je suis partagé entre une colère froide et la stupéfaction. C'est un Nicolas Sarkozy offensif qui est venu se défendre hier soir sur BFM TV.
Il s'est exprimé 2 jours après la volte-face de Ziad Takieddine sur un présumé financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy qui reste malgré tout mis en examen dans cette affaire. Aurélie Herbemont, l'ancien président, s'est montré très combatif hier.
Je ne suis pas un pourri. Et ce qui m'est infligé est un scandale, madame.
Nicolas Sarkozy ou l'envie d'en découdre. Il rejette en bloc toutes les accusations. Avant de faire face au juge dans l'affaire des écoutes dans 10 jours, il se défend face à l'opinion publique et lance la contre-attaque dans le dossier libyen.
Ce dossier n'est truffé que de faux. J'ai dit au juge, cherchez pendant un siècle ce que vous voulez. Vous ne trouverez rien. Je fais les Français juges de cette affaire pitoyable.
Malgré la volte-face de Ziad Takieddine, l'ancien président reste mis en examen pour association de malfaiteurs. On est chez les fous, martèle-t-il, à grand renfort de mots qui traduisent sa colère. Ignominie, monstruosité, scénario invraisemblable. Un Nicolas Sarkozy combatif qui s'adoucit quand il parle politique, même s'il l'assure, c'est fini.
J'ai tourné la page. Je demande à chacun de comprendre que le temps de la politique politicienne, que je respecte, ça a été un temps dans ma vie du passé.
Certains à droite rêvent pourtant au futur. Je ne le crois pas quand il dit ça, glisse un de ses amis, mais il a raison de dire ça aujourd'hui.
Selon le procureur national financier, les charges qui pèsent contre Nicolas Sarkozy ne se limitent pas aux déclarations de Ziad Takieddine. Elles s'appuient sur des indices graves ou concordants.
Et on revient sur le sujet tout à l'heure avec l'édito de Catherine Ney à 8h40. C'est l'enquête Europe 1 du jour. Quel avenir pour les salariés de l'usine Bridgestone à Béthune? L'intersyndicale s'est réunie hier pour demander des garanties sur le plan social.
Et dans le même temps, les pouvoirs publics et le géant japonais du pneumatique ont annoncé leur volonté de trouver un repreneur. L'objectif, sauver un maximum d'emplois. Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour.
Vous avez dressé le bilan de tous les projets de relance des grands sites industriels des Hauts-de-France, ceux qui ont connu des fermetures. Alors est-ce que ça marche ?
Eh bien, en fait, le bilan est assez mitigé. Prenez un premier exemple, l'usine Continental de Clairoy, 1113 salariés au moment de sa fermeture en 2009. Aujourd'hui, le site est occupé par des entreprises de logistique qui emploient à peine 350 personnes. Autre exemple, Goodyear à Amiens. Là aussi, plus d'un millier d'emplois au moment de la fermeture en 2014. Aujourd'hui, 300 personnes dans des entrepôts consacrés à la logistique, là encore, après que l'on a rasé l'usine. Et puis, vous vous souvenez de Whirlpool, un peu moins de 300 salariés, le fiasco d'une reprise sur fond de campagne présidentielle. Aujourd'hui, 90 emplois sur le site dans une société spécialisée dans l'agencement d'entreprises. Et puis plus loin dans le temps, il y a eu l'affaire Metal Europe, 830 salariés sur le carreau en 2003. L'engagement des pouvoirs publics avait permis de lancer un vaste plan de création d'activités, un millier d'emplois créés dans l'arrondissement, mais sur le site même, 300 personnes sont employées aujourd'hui dans des activités de recyclage.
Lionel, est-ce que ces plans de revitalisation ont bénéficié aux salariés licenciés ?
Alors pour Metal Europe, il y avait quand même eu 250 salariés repris. Sur l'ancien site de Whirlpool, 44 anciens ont conservé un emploi lors du deuxième plan. Pour les autres entreprises, eh bien, il y a eu des cellules de reclassement, des reconversions, des départs en retraite. En fait, on constate que les ouvriers d'un site industriel sont rarement réemployables dans les projets de reprise, comme l'explique Antonio D'Acosta, ex-délégué force ouvrière chez Continental.
Ces plans de revitalisation, effectivement, il y a beaucoup d'argent qui y est consacré. Ensuite, on utilise cet argent pour créer des petites structures, des petites choses, je veux dire. Mais ces salariés-là, eux, ils regardent. Nous, on n'est pas embauchés. Avec cet argent, ne nous sert pas à nous, quoi.
Alors maintenant, pour le site de Bridgestone à Béthune, l'espoir, c'est qu'un industriel du pneumatique se porte candidat à la reprise. Cela permettrait vraiment de limiter la casse sociale.
Lionel Gougelot pour Europe 1.
Et sur Bridgestone, mais aussi sur le confinement et sur les conséquences sur tous les commerces, je reçois à 8h15, dans 10 minutes, Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Le pic de l'épidémie n'a pas encore été atteint en France. Malgré un léger mieux, 467 personnes sont mortes du Covid ces dernières 24 heures.
Mais pour lutter contre l'épidémie, il faut respecter le confinement, rappelle le gouvernement. Depuis le début de la semaine, les contrôles sont renforcés et les fêtards verbalisés. Près de 2 300 € de PV ont été dressés en une seule soirée. C'était jeudi dernier à Pontarlier, dans le Doubs. Arthur Mbaché.
L'histoire ne dit pas si, au moment de la conférence de presse de Jean Castex jeudi, la fête avait déjà commencé à 21h45. En revanche, pas de doute, arrivée des gendarmes alertés par un voisin. Le bruit, la musique, 15 voitures dans la cour, 17 jeunes gens dans un appartement. Des fêtards apparemment effrayés par les hommes du capitaine Combes Chevalère.
Il y a deux individus qui tentent de s'échapper par le balcon. Le propriétaire des lieux, en tous les cas, dit il les dissuade de le faire parce qu'il y a son véhicule qui est juste en dessous. Ces deux comparses ne s'exécutent pas et donc restent dans le domicile. Effectivement, on sent que les gens ont envie de s'échapper un petit peu et d'éviter le contrôle des gendarmes.
Les gendarmes contrôlent, les gendarmes verbalisent. La fameuse amende de 135 € multipliée par 17, 2 295 €. Avis aux Levisiens, les habitants de Levier et à tous les habitants du coin, la gendarmerie du Doubs annonce d'autres contrôles dans les prochains jours.
Arthur Mbaché pour Europe 1.
Il est 8h08, dans un instant on va prendre la direction du Portugal. Les Bleus affrontent l'équipe de Cristiano Ronaldo ce soir à Lisbonne, c'est pas rien. Match à huis clos qui compte pour la Ligue des Nations. A tout de suite.
Europe 1, votre matinale info. Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal d'Émilie Dez. Les Bleus ont l'occasion de se racheter ce soir, 3 jours après leur défaite face à la Finlande. Ils affrontent le Portugal à huis clos à Lisbonne.
Un match décisif pour la première place du groupe des Bleus en Ligue des Nations. Pas de supporters dans les tribunes. Le match se jouera à huis clos. Covid oblige. La capitale portugaise encaisse difficilement les restrictions sanitaires. Reportage sur place de Jean-François Pérez.
Tout va bien en apparence dans les rues sinueuses du vieux Lisbonne. Le célèbre tramway du Barrio Alto circule, quelques enfants s'amusent, mais on est vite confronté au vide et au silence dans cette ville d'habitude si grouillante. José, disquaire du quartier, 60 ans de Lisbonne au compteur.
Ça marche pas bien, c'est difficile, il n'y a presque personne dans la rue. Peut-être la plus centrale de Lisbonne. On est peut-être aux Champs-Élysées de vous et maintenant il y a beaucoup moins de tourisme, c'est évident.
José estime à 80% la baisse de son chiffre d'affaires depuis le retour du confinement il y a 10 jours. En descendant sur les quais du Tage, la vue est imprenable mais les terrasses désertes. Daniela, restauratrice, nous donne dépité son dernier chiffre de fréquentation.
2%.
2%?
Bah ouais, il n'y a personne. Maintenant, je suis là, assis en train de parler avec vous, mais si c'était des mois avant, et j'avais pas le temps parce que j'étais en train de courir. Maintenant, on fait rien.
Vent debout contre les nouvelles règles qui les obligent à fermer à 22h30 en semaine et dès 13h le week-end. Les restaurateurs et les cafetiers ont prévu de manifester cet après-midi sous les fenêtres du Parlement. Lisbonne, Jean-François Pérez, Europe 1.
Portugal-France, un match à suivre dans son intégralité ce soir avec Lionel Rosso dans Europe 1 Sport, coup d'envoi à 20h45.
Et puis en rugby, on l'a appris hier, pas de France, Fidji, Bicos Covid, et puis pas de Français en finale du tournoi de tennis de Sofia, Gasquet et Manarino se sont fait éliminer en demi. Et puis Europe 1 vous propose ce matin d'embarquer à bord d'une voiture révolutionnaire, un prototype made in France 100% électrique avec suffisamment d'autonomie pour disputer les 24 heures du Mans.
Le secret réside dans le carburant utilisé, il s'agit de l'hydrogène. Axel May a pu monter à bord lors d'une session d'essai privée organisée cette semaine sur le circuit de Lurcy-Lévis dans l'Allier.
Un bruit d'avion au décollage pour un bolide hors norme, propulsé par 4 moteurs électriques alimentés par une pile à hydrogène. À bord, l'habitacle au ras du sol est celui des prototypes qui disputent les 24 heures du Mans. Mieux vaut être souple et mince pour se glisser à l'intérieur. Pas de superflu, uniquement des boutons, des cadrans et un volant qui ressemble à une console de jeu. Près du cockpit, 3 diodes de couleur sont installées. Norman Natto, pilote de développement.
Le vert, tout va bien. Le jaune, c'est potentiellement une fuite d'hydrogène. Et le rouge, c'est qu'il y a un problème d'isolation sur la voiture. Donc là, c'est sûr, voilà, il y a quand même danger. Alors, il n'y a pas de quoi s'affoler. Il faut juste suivre les instructions. Et...
Sous le nom de Mission H24, la voiture est développée par Green GT, société installée dans le sud de la France, en partenariat avec l'Automobile Club de l'Ouest, l'organisateur des 24 heures du Mans. Jean-Michel Bourèche, responsable des opérations.
La grande innovation, c'est qu'une voiture électrique hydrogène comme celle-ci a la même autonomie qu'un moteur thermique, la même puissance et rejette que de la vapeur d'eau.
La vapeur d'eau issue de la combustion de l'hydrogène. Objectif, afficher que la voiture dispute en 2024 les 24 heures du Mans.
Axel May pour Europe 1.
Ça fait quand même le bruit d'un Airbus au décollage.
C'est vrai, on dirait
un peu. Ça fait bizarre. Merci Émilie Dès qui revient tout à l'heure pour le journal de 9h.